Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
José vient du Pérou. Il a grandi dans une région de la cordillère andine habitée par les Quechua. Initié depuis son très jeune âge aux savoirs médicinaux de la forêt du monde andin, il reçoit des enseignements de ses ancêtres les Incas et Pré-Incas. À travers ses différents outils et pratiques traditionnelles, il rétablit les liens profonds entre l'homme et la terre-mère, la Pachamama. En tant que porte-parole natif, je lui ai proposé, via l'émission Regarde ailleurs, de prendre la parole pour en savoir un peu plus sur son itinéraire de vie. Voilà, donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. L'idée, c'est vraiment de rencontrer différentes cultures, différents parcours de vie. Donc là, je suis avec Rosset, que je rencontre sur un festival, le festival au cœur du sacré. Donc toi, Rosset, je sais pas grand-chose de toi, mais l'idée, c'est de prendre le temps de te rencontrer dans cette émission. Hier, je t'ai vu à l'œuvre dans un cercle d'hommes que tu animais. Donc voilà, Rosset, toi, je sais que tu es péruvien, mais donne-moi un peu plus d'informations. D'où viens-tu? Parle-moi de ton enfance, de ta jeunesse, et comment ça se fait qu'aujourd'hui je puisse te parler en français. Donc on va revenir longtemps dans le passé. Raconte-nous où tu es né et dans quel contexte culturel et social.
Bonjour Alexandre. Alors moi, je suis péruvien, plus exactement d'une région quechua, s'appelle Ayacucho. Également dans cette région, il y a la forêt amazonienne qu'on appelle la forêt haute. Et moi, j'ai grandi là-bas, un peu mélangé entre les cultures de la forêt amazonienne et la culture des hauts plateaux, des cultures andines, quechua. Et j'étais, depuis tout petit, j'étais baigné par les savoirs des communautés Kampa, qu'on appelle les Achaninka. Et moi, j'allais, une partie de l'année, j'allais là-bas aider à mon père à récolter les fruits pour ramener dans les cendres. Parce que la plupart des fruits viennent de la forêt. Et là, moi, j'étais imprégné de la culture Achaninka, liée aux plantes, aux esprits, également à ce respect à la terre, à ce respect d'interagir avec la nature, avec les animaux. Et ce respect qui m'a également amené à être ici en France. Et aussi j'ai grandi dans la cordillère des Andes, dans la cordillère des côtés de ma mère, c'est les Quechua. Et ce côté que je hérite, hein, ce côté des savoirs des plantes médicinales, c'est le côté de ma mère.
Mais donc tes parents ne sont pas de la même ethnie, du même peuple, si j'entends bien. Tu me parles des Quechua, tu me parles aussi des Andes, de la cordillère.
Oui, ma mère, elle est de la région Quechua et la famille de mon père, c'est à côté de la forêt.
Alors comment est-ce qu'ils se sont rencontrés s'ils ne vivent pas dans les mêmes latitudes et les mêmes endroits?
Ça se trouve qu'eux, ils étaient jeunes et sont partis à la capitale à chercher des nouvelles opportunités, parce qu'à l'époque, quand ils étaient jeunes, il y avait aussi des problèmes un peu politiques qui affectaient la forêt amazonienne, qui affectaient la cordillère des Andes. Et du coup, ils ont été amenés à y aller à Lima, à découvrir qu'est-ce qu'il y a là-bas, et ils se sont rencontrés là-bas. Ouais.
C'est l'histoire de beaucoup de Péruviens, ça, de quitter les campagnes pour aller grandir les banlieues des capitales ou des grandes villes.
Oui, de la plupart, oui. Mais ça dépend aussi des contextes, parce que là, la plupart, ils partent pour chercher des opportunités. Et certains, ils partent parce qu'il y a eu de la violence. La violence des politiques, la violence qu'on appelle de la guerre interne à l'époque. Et que dans certaines communautés, il y avait beaucoup de morts. Et c'est justement cette dissociation des familles fait que c'est. Ils se sont déracinés. Et après, ils se retrouvent partir ailleurs.
C'est quoi cette époque où tu parles de guerre politique? Quel était le contexte culturel de l'époque? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu?
Bon, à l'époque, c'était. Il y a toujours, il y a comme une espèce de temps cyclique où ou quelque chose qu'on va vivre en Occident, en Europe, il va avoir des répercussions aussi dans les pays du Sud, en Afrique, en Amérique du Sud, parce que économiquement aussi, ces pays-là, comme le Pérou, ils dépendent. Ils dépendent de l'Occident aussi. Certains, à l'époque, il y avait beaucoup de... dans le cas de mes parents, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les terratenientes. C'est des gens qui héritent des anciens colonnes leurs terres. Ils sont des secteurs de terre. Et c'est des gens qui habitent, des gens autochtones, qui doivent travailler pour eux et qui doivent payer. Donc à l'époque, ils payaient encore une location pour une terre. Et il y avait encore le curé qui avait le plus le pouvoir à l'époque. Et tout ce problème-là, il a fait qu'eux, ils puissent fuir, partir. Et mon père et ma mère, ils se sont retrouvés dans la capitale parce qu'ils cherchaient des opportunités. Car leur terre, il était pris par des anciens colons. Ils étaient déracinés, ils se sont retrouvés là-bas.
Ça, c'est un problème qu'on entend beaucoup dans la partie Amérique du Sud, dans pas mal de pays d'Amérique du Sud, cette notion d'appropriation des terres, les terres qui sont récupérées, et les ethnies, les peuples racines, les peuples autochtones, qui sont souvent dépossédés de leur environnement, de leurs terres, de leurs forêts, de leurs montagnes.
Oui, il y a beaucoup, même maintenant, il y a beaucoup. C'est justement ce processus qui vit la terre et qui également vit... Les peuples autochtones, il a fait que moi je puisse venir ici. Ça veut dire que mes parents, ils se sont retrouvés à Lima, la capitale. Et moi, je trouvais la maman de mes enfants ici. C'est justement ce rencontre, comment ça va amplifier cette recherche, non? C'est ce rencontre de plus en plus. Et dans le cas, à l'époque, avant de venir ici, il y avait beaucoup d'exploitation des ressources naturelles. Il y a encore. Dans la cordillère des Andes, dans la forêt, et il y a des fuites de pétrole, il y a de la pollution dans les lacs, dans la cordillère des Andes, parce qu'il y a les multinationales qui exploitent les ressources naturelles et les produits qu'ils utilisent pour laver les minéraux, comme les cyanures, des autres produits, ils coulent vers les rivières. Et ces métaux lourds, ils empoisonnent l'eau. Du coup, il y a des malformations de naissance, des séquelles, parce que la plupart de la population des communautés dans la cordillère des Andes, ils dépendent de l'eau des lacs, de l'eau des sources. Et c'est justement le gouvernement, il s'en fout complètement. Parce que la politique qu'il emploie, c'est qu'un pays, il doit se ressembler à un pays de l'Europe, de l'Occident, parce qu'ils sont plus développés. C'est cette mentalité qu'ils sont là-bas, c'est justement pour ça qu'ils font venir, qu'ils acceptent un contrat avec une multinationale pour exploiter les ressources naturelles. Et c'est justement les multinationales, ils vont payer quoi, même pas le 20%, même pas le 30% pour l'État péruvien. Et du coup, l'État, il fait une signature pour 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est justement les communautés comme de la forêt et de la cordillère des Andes, ce qu'ils demandaient, c'est qu'au moins qu'ils puissent respecter le protocole pour ne pas polluer. Ouais. Et voilà, le gouvernement, ils s'en foutaient complètement, parce que le gouvernement, toujours, ils sont des droits. Hein? Le parti politique de droit. Ils veulent que les peuples autochtones voilà, disparaissent. Du coup, à l'époque, disparaissent parce que c'est un retardataire de la société, c'est un retardataire. Et comme le gouvernement, il cherche que l'évolution, la technologie soit toujours le modèle, le point de référence, c'est l'Occident. Et du coup, c'est justement ça, les peuples autochtones, ils le voient comme un retardataire. C'est ça. Et c'est justement, les peuples autochtones, ils envoient des gens un petit peu ailleurs, dans des autres pays, pour chercher des soutiens, des liens juridiques, des organisations qui défendent la terre, le peuple autochtone, juridiquement. Et à partir de ces points, comme c'est l'Europe, les sièges des multinationales sont en Europe. Et à partir d'ici, on peut exercer une pression juridique et que peut-être ils puissent respecter le protocole.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Rossès, je reviens à ton enfance. Donc tes parents se sont rencontrés dans la capitale, dans la ville de Lima au Pérou. Et toi, tu es né à Lima aussi, parce que tu me parles donc de cette double culture, hein, de deux ethnies différentes. Donc ta mère Quechua et ton père Achanika qui se rencontrent à Lima. Et toi, tu grandis à Lima ou est-ce que tu as l'occasion de retourner dans les régions de ton père et de ta mère?
En fait, mon père, après, ils se sont retrouvés. Et j'ai eu des sœurs qui sont nées dans la région de Lima. Après, ils sont retournés à la région de Ayacucho. Et c'est là-bas où je suis né, à Huanta. Après, dans cette région... C'est là-bas où j'ai grandi. C'est justement là que je racontais que moi, depuis tout petit, j'étais amené à vivre un peu dans la forêt, un autre temps dans la cordillère des Andes, et j'étais amené à être dans cette dynamique, hein, dans la nature.
Donc toi, enfant, autour de toi, ce n'était pas des tours de béton et des rues pavées, c'était vraiment la forêt, les arbres, les ambiances sonores et tous les animaux.
Oui, tout à fait. J'étais avec la nature, c'est comme une espèce de biotechnologie, non? Comment on peut être en lien, comment on peut écouter, sentir et voir et interagir avec la nature dans la forêt. C'est comme une famille. Tous les animaux, les toutes petites fourmis, et les respecter. Et même l'arbre le plus grand, les plantes, c'est comme une famille. Hein, comme ils sont là-bas, ils te soutiennent, on les soutient, on les protège, ils te soutiennent. Également, il y a les esprits, il y a le langage de chaque... plante de chaque animal, il y a son langage, il y a son expression. Également dans la cordillère des Andes, c'est plus lié beaucoup à la constellation, aux étoiles, c'est tellurique, les montagnes, les dieux de la montagne, l'eau, il y a beaucoup, beaucoup ce respect, ce lien à la nature. Et j'ai grandi beaucoup dans des différents rituels. Ça fait partie de la vie quotidienne. Des rituels pour tout. Et quand j'ai arrivé une fois, je pense que j'avais 10 ans, je suis parti dans la ville. Et c'est comme si moi, j'avais rêvé les villes, voir des villes, les rues avec des prénoms. Et c'était comme chaque rue, il y avait un prénom. c'était impressionnant.
Mais souvent, c'est ça, on est appelé par ce qu'on ne connaît pas. Donc quand on vit dans les villes, aujourd'hui, beaucoup d'urbains font le choix de retourner vivre dans les campagnes. Et j'ai l'impression que beaucoup de peuples qui sont nés dans les campagnes n'aspirent qu'à une chose, ou n'ont qu'un rêve, c'est d'aller vivre dans les villes. Il y a toujours cette envie d'aller voir au-delà de son village, au-delà de sa vallée, au-delà de sa montagne, pour découvrir l'ailleurs. Donc toi aussi, enfant, tu rêvais de quitter cette nature pour aller dans les grandes villes?
Alors, moi, je rêvais, c'était un rêve, quand je te parle que je dors la nuit, je rêve. C'était quelque chose que moi, j'avais rêvé, c'est comme un déjà vu, d'avoir rêvé. Non? Mais par contre, je n'avais pas cette envie d'aller dans la ville, parce que moi, je sentais que ce n'était pas mon environnement. Mais si moi, je me trouvais dans la ville, c'était par des, parce que mon père, il était malade, il fallait y aller à l'hôpital par un accident que les plantes, les choses, ils pouvaient pas le guérir. Il fallait l'accompagner. Et ça, là, j'étais amené à la ville. Et j'ai pas des bons souvenirs. Mais par contre, certaines choses, j'avais l'impression. J'étais impressionné. J'étais impressionné par la ville, par les maisons, par les voitures, par les couleurs. Par ces couleurs, par le béton. Voilà, le béton, je pensais que c'était les pierres... Les pierres plâtres, je pensais que les constructions des Incas continuent encore, mais de cette façon. Mais après, petit à petit, je commençais à apprendre, à savoir que c'était une ville. Et pour moi, ça faisait comme une autre planète.
Mais quand tu étais dans ton village, tu avais déjà des images peut-être de ces villes. Tu avais peut-être accès à la télévision, aux journaux, aux médias. Tu savais quand même où tu allais ou pas du tout? C'était une vraie découverte, la ville?
Ah, pas du tout. C'était une vraie découverte.
Tu n'avais pas accès à l'information, à la télévision dans ton village?
Alors, j'avais l'accès à la radio, mais la radio, c'était comme si une radio, c'était comme si c'était une radio qui partageait de la musique et des informations, et c'était une radio qu'on avait à la maison, c'était une, il captait une seule radio, et il transmet, juste je croyais que c'était la magie, la magie qui sortait par la radio et que quelqu'un y parlait, il y avait de la musique. Je croyais que quelqu'un faisait un concert à l'intérieur de la radio et je croyais un peu ça. Et oui.
Je reviens à cette notion de spiritualité, de lien avec la nature, où tu as l'air de dire que finalement, enfant ou dans ce contexte-là, la nature est tout, est très présente. Et tu parles aussi de rituels. Est-ce que tu peux développer la place de la nature dans cette vie que tu as eue enfant et à quoi servaient les différents rituels que tu as pu observer?
Alors les rituels, par exemple, ils servaient beaucoup à ouvrir la naissance des animaux, accueillir la naissance des animaux, des bébés, des enfants, la naissance des plantes, la récolte. C'est comme des rites de passage. Faire une danse, des chants, on peut dire, arroser la terre avant de la bêcher. Il y a un rituel, des chants. Également, on attend. Il y a des chants aussi pour planter des graines. Il y a des chants également pour chaque étape. Pour chaque étape. Des plantes, ça peut être des maïs, des pommes de terre, des quinoa et des autres plantes médicinales. Il y a toujours il y a un rituel. Et à chaque pleine lune également, il y a un rituel. À chaque fois qu'on va y aller chercher de l'eau, des lacs, là, loin, à 10 km à pied, il faut nettoyer les canaux. Et c'est une fête également, c'est une fête parce que l'eau, il va venir, il faut le recevoir à l'eau. C'est un être, c'est un esprit, c'est un être vivant. C'est la fête également. Et à chaque fois qu'on va récolter également, il y a toujours la fête, une naissance. À chaque temps cyclique, c'est une fête. C'est une fête, c'est un rituel. Et c'est quotidien. Et c'est traditionnel pour chaque élément.
Et ces rituels quotidiens, hein, tu parles d'une forme de prière finalement pour l'eau, pour les différents éléments, c'est une croyance aussi qui est nourrie par un peuple. Est-ce que tu as jamais remis ça en question? Est-ce que tu t'es jamais dit, mais en fait, à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire? Peut-être qu'il n'y a pas d'esprit dans l'eau, peut-être qu'il n'y a pas d'esprit dans les arbres. Est-ce que tu as, dans ton cheminement, pensé que bah, peut-être ce n'était pas vrai?
Alors, je pense que je sentais le sentir. Et dans les savoirs des Incas, ils parlent de 33,3%. Ça veut dire, pour avoir la certitude de quelque chose, pour avoir 100% de certitude, il faut toucher. Il va te donner 33,3%. Et sentir, il va te donner également 33,3%. Et voir, il va te donner 33,3%. Si tu as les trois, tu es sûr que c'est vrai.
Alors parle-nous de tes expériences personnelles. Tu as senti, touché et vu les esprits?
Oui. Parce qu'on sait très bien où il n'y a pas des êtres humains, il n'y a que la nature. Et la nature, quand elle est très très vivante, c'est la nature qui exprime ce langage. Qu'on peut l'appeler énergie, information, présence. Et on sait que la Terre, c'est une alchimiste. Parce que nos avis et tout ce que nous savons, le portable maintenant, contient des minéraux. Et tout ça, plastique, des petites pièces, ils viennent de la Terre. Et quand on voit que la Terre en elle-même, elle peut créer ses esprits, elle peut créer ses vies, ses présences et cet esprit. L'eau, c'est un être vivant. L'arbre, c'est un être vivant.
Quand on parle d'être vivant comme l'eau ou comme l'arbre, oui, je comprends que l'arbre est quelque chose de vivant puisqu'il pousse, il se développe avec le soleil, la photosynthèse, l'eau. Mais quand on parle d'esprit de l'arbre, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour être certain ou pour rentrer en communication avec l'esprit d'un arbre?
Alors, pour rentrer en communication avec l'esprit de l'arbre, nous, on l'appelle la diète. Diéter un arbre, on diéter une plante. Et dans la région de la forêt, on reste 7 jours en méditation au pied d'un arbre. Pour ressentir cette présence, pour ressentir l'arbre, on reste. Au début, c'est un peu fatigant. Mais après, comme tout, comme la plupart des choses, au début, pour accéder à ce message, au début, c'est voilà, comment je dis, c'est fatigant, mais peu à peu, on commence à s'habituer. Et comme nous savons, l'être humain, on a l'habitude de se communiquer à travers l'intelligence. L'intelligence, avec quoi l'être humain, entre êtres humains. Mais nous avons aussi des capacités pour communiquer avec la biologie. Notre corps est biologique et la Terre est biologique. C'est un être biologique, notre corps c'est biologique et exprime des différents langages. Par exemple, comme toi, on parle à travers la voix, à travers les mouvements, à travers les yeux. Également, on a une énergie qui est en train de se ressentir, échanger notre énergie. Également, il y a des choses que nos organes sont en train d'échanger, mais on ne peut pas comprendre au-delà de ça. Dans le sens de l'arbre, quand on fait cette diète d'être assis 7 jours au pied de cet arbre, on peut ressentir peu à peu qu'il y a quelque chose dans l'arbre. Également, on revient 7 jours après et on peut prendre en tisane, en infusion, les racines de cet arbre. On reste en buvant cette racine pendant 7 jours, on reste en prenant cette eau d'infusion des racines de cet arbre pendant 7 jours et on va continuer à ressentir plus de choses, plus d'informations. Ensuite, on revient 7 jours encore pour un autre cycle de 7 jours et on va prendre les écorces en infusion. On reste 7 jours en méditation. Ensuite, les prochains 7 jours, ça sera les feuilles. Les prochains 7 jours, ça sera les fleurs. Les prochains 7 jours, ça sera les fruits.
Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps.
C'est justement pour ça que c'est comme ça que les gens, les guérisseurs dans la forêt, les guérisseurs dans la cordillère des Andes, c'est un travail. C'est un travail. Et c'est pas un travail simplement d'un week-end. Sinon, c'est plusieurs années.
Donc, tout le monde n'est pas guérisseur quand on parle des peuples de la forêt, donc faire ce travail de diète, tu parles de diète, donc si j'entends bien, c'est vraiment prendre ce temps de connexion à une plante ou à un arbre. C'est pas... Tout le monde n'a pas accès à ces informations.
Oui, bien sûr. Tout le monde n'a pas accès, mais tout le monde peut ressentir. Mais pour avoir accès, la plupart, il doit hériter quelque chose. Ça, être héritier. La plupart dans les communautés, ça se passe comme ça. Ça veut dire que mon fils, il prendra ma place ensuite. Son fils, la plupart du temps, c'est comme ça. Soit si mon fils, il ne va pas prendre cette information à son fils, à son autre fils, s'il va passer 7 générations après, ça va effacer. Ça efface de notre sang ces informations.
Et toi, par exemple, tes parents, ta mère ou ton père avaient quelque chose à te transmettre de cet ordre-là?
Oui, ma mère. Ma mère, c'est plutôt ma mère qui m'a transmis beaucoup de choses. Mon père, il m'a transmis les rituels. De l'eau, de la terre, de feu, parce que c'est traditionnel ça. Mais ma mère, il m'a transmis plus profondément tout ce qui est lié aux plantes, ce qui est lié aux montagnes sacrées, les énergies, et des oncles également qui m'ont transmis tous les savoirs des Incas aussi, la science des Incas. Et en revenant à l'arbre, après qu'on a fait la diète de tous ces... Toutes ces étapes avec l'arbre, on sent quelque chose, on sent une information. Et là, quand on revient la prochaine fois, on peut sentir plus présent l'arbre en nous à l'intérieur. Parce qu'on a ces informations de ces différentes couches que l'arbre nous a données. Et on peut interagir avec l'arbre. Comment on peut interagir avec un arbre? Par exemple, si moi j'ai mal à la gorge, je vais prendre du eucalyptus, je vais l'écraser. Je veux le laisser infuser 10 minutes dans un verre d'eau chaude. Je veux le voir. Est-ce que ça va me soulager un peu ou pas? La gorge. Mais si je m'approche vers l'arbre, je veux le dire, s'il te plaît, est-ce que je peux prendre une feuille? Je peux me permettre de prendre une feuille de l'arbre, de toi, et je remercie. Je veux l'écraser. Je veux le laisser infuser 10 minutes. Je veux le boire. Je vais me soulager encore mieux qu'avant, parce que j'ai interagi avec l'arbre. Et c'est peut-être cette vibration que j'ai fait la demande avec mon cœur, cette vibration, l'arbre il le ressent. Comme il le ressent, il va sécréter plus de force dans la feuille. Et c'est justement cette interaction est faite avec l'eau. comment l'arbre il contient de l'eau aussi, et comment l'eau il peut transmettre les informations. Et on sait très bien qu'il y a eu un scientifique, Masaru Emoto, qui a fait des épreuves de la molécule de l'eau, le changement de la structure, comment il est fait, comment il, dans quelle forme il va se mettre cette molécule d'eau en fonction de la vibration qu'il va ressentir. Et c'est justement comme ça qu'on peut ressentir un arbre. Et si on va plus profondément à l'arbre, on peut ressentir plus de choses encore. Plus, parce que c'est infini. C'est infini. Chaque arbre, il est infini. Et normalement, là, on voit que chaque arbre, l'arbre le plus ancien dans la forêt, c'est le guide. C'est comme la montagne la plus grande dans une région, c'est le référent des autres montagnes. Pareil, dans les troupeaux des animaux, le plus ancien aussi, c'est le référent. Et c'est toujours on se guide comme ça. C'est lui l'arbre le plus ancien. C'est lui qui contient la mémoire des anciens. Et dans les montagnes, par exemple, c'est que le plus ancien, c'est toujours qui va se donner à la montagne. Et quand il va partir, son envie, son respect de la montagne, une partie de son énergie, il va s'imprégner à cette montagne. Des générations et générations après, il s'imprègne à l'énergie parce que c'est une mémoire. Et après, vu que les montagnes contiennent des différentes couches de minéraux, et en plus il y a de l'énergie tellurique qui sort et de l'énergie cosmique, ça va le donner quelque chose à cette montagne, une forme de vie. Et là on revient à la terre alchimiste, c'est que l'arbre, la montagne contient différentes couches de minéraux, des différentes terres, et avec l'énergie qui sort tellurique et avec l'énergie cosmique, comme un portable, non?
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
On se retrouve ici sur un festival Rencontre au cœur du sacré. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu es venu partager?
Alors ici, je suis venu partager avec Mélina. C'est la personne avec laquelle je co-crée le projet L'École de la forêt. Également, on co-crée beaucoup de ces stages, des retraites. Avec elle, on est venu partager des cérémonies du cacao. On est venu partager des offrandes pour faire à la terre. Et des initiations aux chants de la forêt, hors des sicaros. Les sicaros sont des chants qu'on reçoit de chaque plante, le langage de chaque plante, pour pouvoir chanter à la personne qui va prendre cette plante.
Donc c'est un petit peu un langage avec l'esprit de la plante, c'est ça? C'est une manière de communiquer avec les esprits des plantes?
Oui, c'est justement comme je parlais tout à l'heure de l'arbre, dans la méditation pendant 7 jours. Tu vas recevoir un langage. Et tu vas chanter. Et à chaque étape, il va te donner un chant. Cette information que tu le reçois, tu peux le chanter, tu le chantes. Et c'est des chants précis, ce que tu as ressenti. Et quand tu vas devenir à un moment donné déjà habitué de cet arbre, que tu vas le connaître plus en profondeur, si c'est un arbre médicinal, s'il y a une personne qui vient avec une maladie émotionnelle, que la médecine moderne ne peut pas le soigner, peut-être. La personne, il le met assis au pied de cet arbre. Et après, la personne, il va ressentir quelque chose de du patient qui vient. Il va le donner en fonction de son ressenti vraiment, parce qu'il est bien précis ce ressenti. Parce que quand on a vu de la nature, il y a un lien qui va se créer entre la personne et les plantes et les arbres. Il va ressentir du patient qu'il avait soin, peut-être de boire. Une infusion de fleurs ou une infusion des fruits de l'arbre ou des racines. Et en fonction de ça, il va le donner une partie de l'arbre à la personne et après il va lui donner son chant, le chant que l'arbre il a donné. Il va le chanter et en fonction de ça, il va sentir où il y a quelque chose cristallisé à l'intérieur et à travers la vibration du chant qu'il va lâcher, le guérisseur va soulager la personne.
Donc tu es là pour transmettre ça, pour chanter des chants sacrés, des icaros aux festivaliers qui sont présents.
Oui, Une des choses, c'est aussi pour ça. Ouais.
Comment est-ce que ça va impacter, parce que là, on parle d'une plante ou d'un esprit qui est dans la forêt amazonienne, donc l'Icaro, c'est donc une chanson qui était donnée, hein, si j'ai bien compris, mais ici, c'est des plantes différentes, des arbres différents. Donc, comment est-ce qu'une chanson peut impacter les gens ici?
Il y a des personnes, hein, c'était une transmission. L'atelier qui a duré 1 heure et demie, là on ne peut pas faire une grande chose. Mais en France, il y a beaucoup d'arbres, des arbres médicinaux. Et la personne, au lieu de prendre la feuille et de faire un pucer et de le voir directement, et pour utiliser ses moyens pour se connecter directement à l'arbre, et au-delà de tout ça, c'est pour avoir ce respect vers l'arbre et ce respect à la terre.
Donc c'est peut-être ça finalement le vrai message des peuples autochtones, c'est de nous réapprendre que la nature est divine, qu'on appartient à la nature et qu'il est important d'apprendre à la comprendre, à la regarder, à la voir et à la respecter.
Tout à fait. C'est là que vraiment on parle des 33,3% de le voir, de la sentir, de la toucher et la respecter. Vraiment. Ce que je pourrais partager, c'est d'écouter votre cœur, lire la nature et de ressentir et de s'approcher plus avec respect vers les plantes, vers les éléments, vers la terre. Car nous avons envie encore que la terre puisse rester pour nous, encore pour les prochaines générations, peut-être 2000, 3000 ans de plus, au plus encore. Et nous avons cette responsabilité de veiller, car nous sommes la terre.
Merci, merci à toi.
Au Pérou, on dit Hayaya.
Hayaya.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.